on va commencer. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre trop de retard parce qu'on a une séance chargée. Aujourd'hui, on va tenter un Translocation Slam. Je remercie beaucoup Léa d'avoir organisé tout ça dans un temps record. Et je remercie nos intervenants de jouer le jeu. J'espère que ça va être ludique pour nous tous. Et je pense que ce n'est pas un exercice évident. Moi, je sais que présenter ma thèse dans 10 minutes, ce n'est pas un truc qu'on fait trop facilement. Donc, je vous redemanderai aussi un peu d'indulgence parce que ce n'est vraiment pas évident. Et donc, on fera 10 minutes par personne avec une ou deux questions. Et puis, on espère du coup avoir encore un petit poche de temps à la fin pour des questions à tout le monde, pour être sûr que tout le monde ait le temps de bien présenter son travail. Donc je suis très heureuse de vous présenter Susana Stussi-Garcia, qui a une formation d'archéologue et qui est actuellement en train de faire sa thèse à Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Dominique Poulot. Elle va nous présenter donc son travail sur les arts méconnues des anciens Américains, la réception sensible et la construction d'un savoir sur les arts précolombiens au XIXe siècle à travers l'exemple croisé des collections muséales européennes. Merci.
Merci Felicity, merci Léa. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous présenter mon sujet de thèse aujourd'hui. Alors, comme c'est une recherche qui est encore très à ses débuts, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les principaux axes de réflexion, puis de faire un petit point sur où j'en suis après ces premiers mois de travail. Mes recherches portent sur l'entrée suscitée par les arts précolombiens en Europe au XIXe siècle, et donc j'étudie la réception intellectuelle et sensible de ces antiquités. D'abord, donc, pourquoi les antiquités précolombiennes? Parce que ce sont des objets avec un statut ambigu qui sont assez difficiles à définir. Ce sont des objets qui ont été longtemps jugés barbares, hideux, et qui ont été tantôt considérés comme des curiosités exotiques, tantôt comme des artefacts archéologiques, et seulement plus récemment comme des œuvres d'art. Ainsi, par exemple, dans un guide des visiteurs du musée du Louvre de 1853, vous pouviez lire à propos du musée mexicain du Louvre, je cite donc l'auteur de ce guide, « Il nous répugne de voir le Louvre, ce sanctuaire consacré aux plus grandes civilisations qui font la gloire et l'orgueil de l'humanité, donner asile à des friperies barbares qui intéressent bien plus aux archéologues officiels que les artistes. Cette accumulation de prétendues richesses fera bientôt ressembler, si on n'y prend pas garde, notre magnifique musée à une fabrique de bric-à-brac. » Donc la situation avait pourtant drastiquement changé en 1928, lorsque ces mêmes pièces mexicaines étaient montrées à l'occasion de l'exposition « Les arts anciens de l'Amérique » au Musée des arts décoratifs. Je vous cite donc un compte-rendu de cette exposition où on dit « Du Mexique et de l'Amérique centrale, nous admirons les superbes sculptures. L'une des pièces capitales est une curieuse tête de mort taillée dans le cristal de roche qui est certes un chef-d'œuvre. Les belles sculptures de la meilleure époque aztèque y abondent. » Comme vous le voyez donc, l'opinion publique a radicalement changé entre 1850 et 1930. Ainsi, pour moi, la translocation qui m'intéresse d'abord, c'est vraiment la transformation de sens qui subissent les antiquités précolombiennes comme conséquence de leur déplacement, de leur translocation physique. Donc ce sont des objets qui ont perdu leur fonction primaire au sein des sociétés qu'ils avaient produites, qui ont été collectés, déplacés et qui sont donc devenus des objets de collection, des curiosités, des supports pour la réflexion scientifique ou encore des œuvres d'art. Donc jusqu'alors, la recherche a surtout privilégié une histoire des collections précolombiennes en Europe. Et donc, il me semblait intéressant quand même de regarder la réception de ces collections d'antiquités du point de vue d'une histoire des idées et d'une histoire du goût. Surtout car la situation de ces antiquités précolombiennes a été moins étudiée que la situation à la même époque d'autres types d'antiquités, par exemple les antiquités égyptiennes ou les antiquités classiques. Alors, je travaille surtout sur les collections du XIXe siècle parce qu'en effet, la plupart des collections des musées en Europe ont été formées au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Bien sûr qu'on avait collecté des objets précolombiens avant, mais les collections formées entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ces objets ne sont jamais vraiment rentrés dans les circuits marchands parce qu'ils étaient dans la plupart dirigés aux collections des rois portugais et espagnols. Donc il y a vraiment un changement qualitatif et quantitatif dans le collectionnisme précolombien au XIXe siècle, par une raison assez simple, c'est l'émancipation des colonies portugaises et espagnoles au tout début du XIXe siècle. Et donc il y a des territoires américains qui étaient jusqu'alors fermés et qui sont maintenant ouverts aux voyageurs européens, notamment aux Anglais, aux Allemands et aux Français. Donc mon idée de départ était d'adopter une perspective transnationale et travailler à partir des collections de musées. D'abord parce que la patrimonialisation de ces objets est allée de pair avec le développement de la recherche sur l'Antiquité américaine, mais surtout car les musées où on a choisi de montrer ces objets reflètent les valeurs qui ont été attribuées aux antiquités et aux arts précolombiens. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose de montrer la sculpture aztèque au musée du Louvre, en musée universel, à vocation universelle, pardon, de beaux-arts, que dans une exposition d'ethnographie ou que dans un musée archéologique. Donc je m'avais proposé d'étudier les différents milieux savants qui sont intéressés à ces objets, les différentes disciplines, notamment l'histoire de l'art et l'archéologie, les empreintes théoriques entre elles, aussi d'analyser les principaux débats touchant la nature et la valeur des arts précolombiens et essayer de remettre ce collectionnisme dans son contexte politique, culturel et économique concret. Toutefois, après avoir commencé mes recherches, j'ai été bien sûr obligée de revisiter certains aspects de ce projet de départ. D'abord, j'ai dû revenir sur les bornes chronologiques et spatiales, parce que tel que le projet avait été proposé, elles étaient trop larges et c'était très difficile de délimiter un corpus que me permettrait de travailler sur ces questions. Donc c'est finalement le problème de l'exhaustivité, parce que les collections précolombiennes en Europe, elles sont très nombreuses et très variées. Et il a fallu donc définir les catégories d'antiquités les plus pertinentes, de trouver les objets qui ont le plus marqué la réflexion et les esprits. Et dans le cas des antiquités précolombiennes, j'ai finalement choisi la sculpture mexicaine et maya et les vases péruviens, qui sont des favoris des collectionneurs et des musées depuis les débuts. De même, il m'a fallu choisir des institutions qui se prêteraient bien à des comparaisons légitimes. Finalement, donc, je me suis décidée par un regard croisé entre les collections britanniques au British Museum à Londres et les collections françaises au musée du Louvre, puis au musée d'ethnographie de Trocadéro. Parce que ce sont des collections qui ont été construites à peu près à la même période, à partir de deux grandes collections bases, les collections La Tour à l'Art en France et la collection Christie en Angleterre, et surtout parce que ce sont aussi des collections qui ont été confiées à des conservateurs avec des profils similaires. Donc des conservateurs qui ont travaillé dans une même période, qui ont eu des très grands départements d'antiquités à leur charge, qui étaient des savants avec un profil universel, mais qui n'étaient pas du tout des spécialistes des Amériques, et qui ont donc dû créer des nouveaux espaces pour montrer ces antiquités, faire face à la mise en ordre et à la catalogation de ces collections, sur lesquelles on avait finalement très peu d'informations à l'époque. Donc ces deux conservateurs sont Adrien de Longperrier pour le musée du Louvre, puis pour le British Museum, Augustus Wollaston Franks. Et là, pour conclure, avec une dernière point, je suis arrivée à un moment où je me suis rendu compte que pour replacer vraiment le collectionnisme d'antiquité précolombienne dans une histoire du goût et pas seulement dans une histoire des idées, même si bien sûr ces deux sphères sont intimement liées, il me fallait aussi regarder un peu en dehors les musées. Et donc, par exemple, penser aussi un peu aux expositions public, mais qui émane des initiatives personnelles. Vous avez ici l'exemple d'une exposition en 1854 à Londres, de la collection Bedford Young, voilà, qui était tout à fait une initiative de collectionneur. Ou encore, regarder l'exposition de ces objets dans l'espace privé. Et comme exemple, je vous ai mis une petite photo d'une partie de la collection Eugène Bobin, une des plus grandes collections d'antiquités précolombiennes en France à cette époque, et où apparemment ces photos-là, pour son catalogue personnel, ont été prises chez lui. Donc c'est d'autres aspects à considérer. Voilà, pour conclure, je pense qu'une approche possible à cette question de la sphère privée, ça serait de regarder un peu le rôle des marchands d'art précolombien à cette époque, qui a été relativement peu étudié, mais qui permettrait, j'espère, d'une part de comprendre la formalisation du marché d'art précolombien à cette époque, et aussi comprendre l'extension de ces collections dans la société bourgeoise, surtout à la fin du XIXe siècle. Donc voilà où j'en suis. Encore une fois, merci Léa, merci Felicity. Et si vous avez des questions ou des commentaires, je suis tout à fait preneuse. Merci.
Merci pour Susanna pour cette présentation d'un projet qui me semble ambitieux et on aura très grand plaisir à le lire. Je suis.
Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Élodie Bayot, qui est une autre étudiante de Dominique Poulot, donc Team Paris 1. Et donc Dominique Poulot a été également le directeur d'Arnaud Bertinet, que nous avons entendu à un autre atelier. Et pour vous dire la qualité des étudiantes et étudiantes de Dominique Poulot, que nous saluons au passage. Donc Élodie Bayot fait une thèse donc, sous sa direction à Paris 1, intitulée provisoirement « Réseau de collectionneurs et enjeux de patrimonialisation en Europe au XIXe siècle, le baron d'Avilliers, le comte de Valencia de Don Juan et Lady Schreiber ». Et aujourd'hui, elle va nous parler des translocations patrimoniales en Espagne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et merci beaucoup, Élodie, de nous faire l'honneur de venir.
Non, mais merci à toutes les deux pour l'organisation de cet atelier et merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai proposé comme titre pour ma présentation « Translocations patrimoniales en Espagne dans la seconde moitié du XIXe siècle », qui est voilà, en fait un des aspects que j'aborde dans le cadre de ma thèse, qui plus largement est consacré donc à des réseaux de collectionneurs et aux enjeux de patrimonialisation en Europe au XIXe siècle. Et comme Léa l'a souligné, j'indique titre provisoire parce qu'il va falloir que j'arrête bientôt un titre définitif, voilà, qui sera probablement un peu différent de celui-ci. Donc ma thèse est en effet une étude sur le collectionnisme européen qui est centrée sur trois collectionneurs d'art décoratif, que je vous présente immédiatement, le baron d'Avilliers, le comte de Valencia Don Juan et Lady Charlotte Schreiber. Et effectivement, je m'intéresse à la question des translocations dans la mesure où mon analyse propose d'identifier les circulations, les interconnexions, les formes de contact entre ces trois acteurs, ces trois collectionneurs, ainsi que leur rôle dans la constitution de collections nationales. Tel que je l'envisage dans le cadre de ma recherche, l'étude des translocations nourrit à la fois une histoire transnationale des musées et du patrimoine et une histoire sociale et culturelle des intermédiaires artistiques. Donc effectivement, il y a certains aspects qui vont recouper la présentation de Susanna. Voilà, qu'on pourra certainement approfondir. Donc brièvement, pourquoi est-ce que j'ai choisi de réunir ces trois collectionneurs ? Dans un premier temps, il faut souligner que la seconde moitié du XIXe siècle témoigne d'un contexte d'émulation autour des arts décoratifs qui fut directement lié aux collectionneurs et amateurs de ces objets. Plus précisément, le baron d'Avilliers, le comte de Valencia Don Juan et Lady Schreiber contribuèrent à une dynamique savante par des publications, des expositions, des dons, des échanges et initièrent une nouvelle histoire du goût. Donc, dans ce contexte d'émulation, je m'intéresse plus particulièrement à la place accordée aux arts décoratifs espagnols. En effet, l'un des enjeux de ma recherche est de périodiser et d'historiciser un phénomène, la naissance du goût, de l'historiographie et de la patrimonialisation des arts décoratifs espagnols. L'objectif est de montrer que l'étude croisée de ces trois collectionneurs éclaire l'existence d'un comportement collectif qui fut à l'origine de cette émulation, ainsi que la configuration d'une forme de curiosité européenne sous tous ses aspects, collectionneur, patrimonial, savant, et à la fois patriote et transnational. Donc pour vous présenter un peu plus dans le détail ces trois collectionneurs, Lady Charlotte Schreiber, le baron d'Avilliers et le comte de Valencia Don Juan ont en commun d'être des collectionneurs qui appartiennent à l'aristocratie européenne. Ils illustrent à la fois par le mariage, l'héritage ou encore la création d'un titre de noblesse, le renouvellement des élites sociales au XIXe siècle. Leurs rencontres respectives, puisque j'insiste là-dessus, mais je travaille vraiment sur les contacts et les interconnexions entre ces trois acteurs. Leurs rencontres furent motivées par des intérêts communs pour la collection et pour certains types d'objets. Et ces trois collectionneurs permettent également de comprendre la mise en place et le fonctionnement de réseaux tournés vers le commerce de l'art et l'érudition. Au moment de leur rencontre, qui se situe au début des années 1870, ils avaient pris leur distance avec les activités commerciales et industrielles qui avaient fait la prospérité de leurs familles respectives, dans le but de se consacrer à l'art et à la collection. À cette époque, chacun d'entre eux jouissait déjà d'une certaine renommée en tant que collectionneur. Et ils partageaient également des goûts artistiques communs, en premier lieu pour les arts décoratifs et plus particulièrement pour la céramique. Ils s'affirmaient aussi comme des amateurs éclairés qui illustrent une pratique savante de la collection, étroitement associée à l'écriture et à la recherche. Donc, par exemple, à la fin des années 1840, Lady Schreiber avait traduit et publié avec succès les Mabinogion, qui sont des contes médiévaux gallois qui font référence à la mythologie celtique et à la légende arthurienne. Le baron d'Avilly avait quant à lui publié ses premiers travaux sur la céramique hispano-mauresque. Vous avez un exemple à l'écran. Ainsi que sur la céramique de Moustier. Et enfin, le comte de Valencia de Don Juan s'était engagé dans l'étude des collections de la couronne d'Espagne. Donc, en effet, leur éducation et leur milieu social conditionnèrent leur rapport à la collection. Leurs alliances matrimoniales, plus particulièrement, furent déterminantes pour leur carrière de collectionneur. Et effectivement, ils témoignent de la capacité d'adaptation de l'aristocratie européenne aux bouleversements sociaux, économiques et politiques provoqués par la révolution industrielle. Cependant, s'ils prirent effectivement leur distance avec les activités industrielles, bancaires ou commerciales de leur famille, ces collectionneurs furent bien formés aux affaires, à l'instar de Lady Schreiber, qui se définissait elle-même comme une femme de commerce. Et c'est ce qui me semble intéressant dans le sens où ils permettent effectivement de démontrer comment les traditions des familles de la haute banque et du commerce international imprégnèrent les pratiques de constitution et de gestion des collections de l'aristocratie européenne. Leur pratique de la collection emprunte en effet au mécanisme des réseaux financiers dont l'organisation reposait sur une base familiale et sur des critères tels que la confiance. Cette constitution de leur collection, elle fut d'abord étroitement liée à un réseau familial qui eut un rôle catalyseur. Et à titre d'exemple, c'est le cas du baron d'Avilliers, qui est associé à son frère dans l'organisation de ventes de faïence méridionale à Paris dans les années 1860, ou encore de Lady Schreiber, dont le célèbre cousin, qui était Austin Henry Lyard, l'archéologue qui entreprit des fouilles à Nimroud, lui permit, dans les années 1850, de constituer une des premières collections particulières de vestiges assyriens. Et de la même façon, le réseau commercial malagaine du futur comte de Valencia Don Juan, puis son réseau familial par alliance, lui permit d'approcher les souverains espagnols et d'avoir accès aux collections de la couronne. Donc à ces réseaux familiaux s'ajoutèrent peu à peu des réseaux artistiques et savants qui étaient entretenus par des jeux de sociabilité dont ces trois collectionneurs furent à la fois des acteurs et des consommateurs. Donc je reviens plus précisément à l'Espagne. Les circonstances qui réunirent ces trois collectionneurs en Espagne au début des années 1870 croisent des perspectives familiales et individuelles, mais aussi des perspectives politiques, diplomatiques et économiques. L'intrusion du chemin de fer au cœur de la civilisation européenne fut un facteur déterminant de leur rencontre dans la mesure où elle leur permit de se retrouver dans des réseaux d'influence communs. La construction du chemin de fer espagnol, qui devint un enjeu d'unification nationale autant que d'ouverture aux échanges internationaux, explique également la présence des Rothschild, du moins les branches anglaises et françaises, en toile de fond de ce paysage économique et industriel. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de se concentrer sur une génération de collectionneurs issus de l'aristocratie voilà, qui furent marqués par la révolution du crédit. Donc, on me signale qu'il me reste très peu de temps. Donc, j'abrège une certaine partie de ma présentation, mais... L'un des principaux axes de ma recherche est en effet de proposer une réflexion qui est fondée sur une approche transnationale du marché et de l'historiographie des arts décoratifs espagnols. Plus précisément, je me concentre sur les années 1850 à 1880, qui, de façon, si je résume de façon très schématique, a été relativement peu étudiée par rapport au début du XIXe siècle, qui est marqué par, bien sûr, les conquêtes napoléoniennes et la guerre d'indépendance en Espagne, ou encore à partir des années 80, où on constate la présence d'importants collectionneurs américains qui s'intéressent de plus en plus à l'art espagnol. En ce qui concerne la période à laquelle je m'intéresse plus précisément, un certain nombre de facteurs permettent de comprendre la présence de ces collectionneurs en Espagne auxquels je rattache aussi deux événements importants qui sont la fondation du South Kensington Museum à Londres à la fin des années 1850, qui commence à s'intéresser plus particulièrement aux arts décoratifs espagnols à partir des années 1860, et en Espagne même, la fondation du Musée archéologique national en 1867. Je voulais illustrer mon propos, et bon, j'ai un peu coupé certains passages, par un exemple plus précis qui réunit ces collectionneurs en 1870 autour de la vente des bijoux du trésor de la cathédrale Notre-Dame del Pilar à Saragosse. Donc très brièvement, c'est une vente qui est motivée par la nécessité de restaurer la cathédrale qui est en ruine. Et donc les autorités ecclésiastiques décident à vendre une partie de leur trésor. Il y a une publicité qui est faite autour de cette vente, notamment par l'édition d'un catalogue en espagnol et en français, ce qui permet d'attirer un certain nombre de marchands et collectionneurs étrangers sur place. Je ne reviens pas sur la place de cette vente dans une histoire plus globale du marché de l'art, mais le fait que cette vente ait lieu à Saragosse est en soi intéressant à étudier. C'est une vente qui a donné lieu à une concurrence internationale de la part de différents acteurs que je vais brièvement nommer, donc le baron d'Avilliers, des collectionneurs espagnols, le South Kensington Museum qui envoie un conseiller qui est chargé d'acquérir des œuvres pour le musée, la famille Rothschild qui envoie ses agents, donc qui sont aussi chargés d'acquérir des œuvres, et puis des marchands français et anglais principalement. On sait que le baron d'Avilliers était par exemple accompagné de Charles Stein ou encore du compositeur Isaac Strauss. Tout ça pour dire que dans le cadre de cette vente, qui n'est pas une vente forcée mais plutôt contrainte par la nécessité d'entreprendre des travaux de rénovation, on a la première forme de valorisation à la fois économique mais aussi artistique d'un certain type d'objet. Donc j'ai quand même quelques exemples qui sont des spécimens d'orfèvrerie espagnole de la Renaissance. Et donc, dans le cadre de cette vente, aidé aussi des confrontations qui ont lieu entre les différents acheteurs, on a une première forme de valorisation économique de ces objets.
Merci beaucoup, Elodie.
Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Guy Tao, qui est historienne de l'art, qui a publié, qui a fait sa thèse à l'université d'Hambourg, une thèse qui a été publiée en 2016. Malheureusement, on n'a pas avec nous pour vous la faire passer sur George Grosse et la France. Elle est aujourd'hui chercheuse associée au Lab Intrus de l'Université de Tours et elle enseigne à l'École du Louvre. Et elle va nous parler de son projet actuel, donc sur les marchands d'art juifs réfugiés à Paris pendant l'occupation.
Merci beaucoup, Félicité, merci beaucoup, Léa. Je voudrais vous présenter aujourd'hui mon projet postdoc qui porte le titre provisoire « Les marchands d'art juif réfugiés à Paris pendant l'occupation ». Comme vous le savez tous, avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Paris a été la capitale du commerce de l'art. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux marchands d'art aient fui à Paris dans l'entre-deux-guerres pour échapper aux persécutions anti-juifs. Ils espéraient que le marché de l'art animé à Paris leur donnerait une bonne chance de gagner leur vie. Après la prise du pouvoir en 1933, des marchands d'art juifs en fuite sont venus par exemple d'Allemagne ou après l'Anschluss de 1938 d'Autriche. D'accord. Lorsque l'occupation a commencé en 1940, beaucoup des marchands d'art juifs réfugiés ont fui à nouveau. Un exemple d'un galeriste juif qui s'est d'abord enfui à Paris, puis est reparti lorsque les Allemands sont arrivés, et le marchand d'art Paul Graupe. En 1937, il est arrivé de Berlin à Paris en passant par la Suisse. Peu après, il a ouvert une galerie, Place Vendôme. Lorsque les Allemands ont envahi Paris, il a abandonné sa galerie dans la capitale française. Il s'est enfui aux États-Unis où il a survécu la guerre. Graupe a été un marchand d'art prospère qui, en 1940, a encore eu les moyens financiers de quitter Paris et de s'établir de l'autre côté de l'Atlantique. Pour beaucoup de petits marchands d'art juifs qui avaient fui à Paris, cette possibilité n'existait pas. Ils sont restés à Paris où ils ont essayé de survivre. Certains d'entre eux ont été encore actifs dans le commerce de l'art. C'est sur ces marchands que porte mon projet de recherche. Actuellement, le groupe de marchands sur lesquels je travaille dans le cadre de mon projet se compose de 12 marchands d'art. Ils sont tous juifs, sont venus à Paris avant la Seconde Guerre mondiale, sont restés à Paris pendant l'occupation et ils y ont été actifs comme marchands d'art. À titre d'exemple, j'aimerais vous en présenter un aujourd'hui, le marchand d'art Jean Lantal. D'origine autrichienne-hongroise, Jean Lantal est né en 1914 à Vienne sous le nom de Hans Löwenthal. Avant la Seconde Guerre mondiale, il s'est installé à Paris au 32 avenue Matignon dans le 8e arrondissement. Cette adresse prestigieuse s'est trouvée à proximité immédiate de la rue La Boétie où se sont, comme vous savez, trouvées de nombreuses galeries importantes dont celles de Paul Rosenberg, Paul Guillaume et Nathan Wildenstein. Immédiatement après le début de l'occupation, des représailles contre les Juifs ont commencé. Jean Lantal n'a plus été autorisé à exercer ni sa profession de marchand d'art, ni son activité de restaurateur. Il était aussi restaurateur. Pour le moment, on ne sait pas comment Lantal, dans cette situation qui a mis sa vie en danger, est entré en contact avec Hildebrand Gurlitt. Peut-être les deux hommes se connaissaient déjà avant la guerre. Aujourd'hui, Gurlitt, historien de l'art et marchand d'art allemand, est connu surtout en rapport avec l'affaire Gurlitt. En 2012, plus de 1200 œuvres sont par des artistes comme Claude Monet, Max Liebermann et Auguste Rodin ont été découvertes dans un appartement à Munich ainsi que dans une maison en Autriche. Autrefois, les œuvres ont appartenu à Hildebrand Gurlitt, qui les avait légués à son fils Cornelius. Sous le régime nazi, Hildebrand Gurlitt a été acheteur pour le Führermuseum, un projet de musée imaginé par Hitler et situé à Linz, en Autriche. Plusieurs œuvres trouvées à Munich et en Autriche ont pu être identifiées comme des œuvres d'art spoliées aux familles juives et rendues à leurs propriétaires légitimes ou à leurs descendants. Parmi les objets confisqués au fils de Hildebrand Gurlitt à Munich en 2012, ont figuré les livres de comptes, pas toujours tenus fidèlement, dans lesquels Gurlitt a noté ses achats en France au nom du régime nazi. Pour 42 œuvres achetées par Gurlitt à Paris, Jean Lantal est nommé vendeur. D'après ces livres, la valeur des œuvres que Gurlitt a achetées chez Lantal s'élève à 1,8 million. parmi les œuvres d'art sont des œuvres de Jean Millet. Vous voyez ces jolis dessins sur l'écran. Thomas Couture et Paul Gauguin. Dans nombre des cas, l'origine de ces œuvres, dont certaines se sont trouvées dans les collections de Gurlitt confisquées à Munich et en Autriche, est encore inconnue. Hildebrand Gurlitt a travaillé à Paris non seulement avec Lontal, mais aussi avec d'autres marchands d'art d'origine juive. Toutes les transactions pour lesquelles Gurlitt a indiqué Lontal comme vendeur dans ses livres de Comte ont eu lieu en 1942. En janvier 1943, Lontal a tenté de fuir la France vers la Suisse. La fuite a échoué. Lontal a été arrêté et amené au camp de Drancy, au nord de Paris. En mai 1944, il a été transporté par le convoi 74 à Auschwitz. À Auschwitz, elle a été affectée à l'opération Bernhard, dans le cadre de laquelle près de 150 prisonniers de camps de concentration ayant reçu une formation artistique ont été chargés de contrefaire des billets de banques étrangères, notamment des billets en livres sterling. Les billets contrefaits ont été destinés à déclencher une hyperinflation à l'étranger et comptent encore aujourd'hui parmi les billets les plus parfaitement contrefaits. L'opération Bernhard s'est déroulée successivement dans différents camps de concentration. Cela a eu pour conséquence que Lontal a été emprisonné, entre autres, dans les camps de concentration de Mauthausen, Sachsenhausen et Oranienburg. Presque tous les membres de l'opération Bernhard ont survécu. En mai 1945, Jean Lontal a été libéré par les Américains à Ebensee, en Autriche. Après la guerre, Lontal est retourné à Paris, où il s'est réinstallé comme marchand d'art. Déjà en 1947, il a été à nouveau en contact avec Hildebrand Gurlitt, l'ancien acheteur pour le Führermuseum. Les lettres cryptées de Lontal et Gurlitt, dans lesquelles les deux se sont assurés de leur amitié, semblent concerner des œuvres d'art que Gurlitt avait encore stockées à Paris. Toujours en 1947, Gurlitt a délivré un document important que vous voyez ici. Dans ce document, Gurlitt a confirmé que de nombreux achats pendant l'occupation pour lesquels il avait indiqué Lontal comme vendeur dans ses livres de compte n'étaient que des achats fictifs. Comme les vrais vendeurs des œuvres d'art n'ont pas voulu que leur nom figure sur la facture, Gurlitt a demandé à Lontal de lui rendre service en jouant le rôle de vendeur. Lontal n'a été que prête-nom, l'homme de paille qui a mis son identité au service d'une cause dans laquelle il n'a pas été engagé. Probablement, il n'eut rien à faire avec les ventes réelles, mais a rendu service à Gurlitt qui avait besoin du nom du vendeur pour obtenir l'autorisation, d'exporter des œuvres vers l'Allemagne. Gurlitt a décédé en 1956, sans être poursuivi par la justice pour ses activités d'acheteur pendant le Troisième Reich. On ne sait pas si Lontal et Gurlitt, auparavant, ont encore fait affaire ensemble. Voilà pour Jean Lontal. Comme je l'avais déjà dit au début, Lontal n'est qu'un des 12 marchands d'art juifs réfugiés à Paris et actifs pendant l'occupation sur lesquels je travaille dans mon projet postdoc. Son cas, brièvement exposé ici, montre déjà à quel point le sort de ces marchands peut être ambivalent. Autres marchands d'art pour lesquels je m'intéresse sont par exemple Hugo et Herbert Engel, père et fils, comme Lontal d'origine autrichienne, actif pendant l'occupation à Paris et au sud de la France aussi. Et les frères Lubel, Ali et Manon, marchands d'art à Paris. Analyser leur situation, examiner ce que ces marchands d'art ont eu en commun, quelles différences il y a, quel type de réseau ils ont utilisé, évaluer leur comportement après la guerre, nécessite un cadre particulier, un cadre dans lequel on prend compte de la situation spécifique de ces marchands qui, comme juifs, pendant l'occupation, ont été confrontés à une situation mettant leur vie en danger.
Donc on va maintenant écouter Nicolas Sarzeau, qui est d'une autre spécialité, un étudiant d'Étienne Hanheim, qu'on adore particulièrement, Étienne Hanheim. Et Nicolas fait sa thèse en fait, avec lui en histoire de l'art médiéval. Et Nicolas étudie dans sa thèse la série des sensuaires imprimés à la fin du Moyen-Âge. et donc à l'esthétique de l'empreinte et à l'économie de la démultiplication de l'image sainte, ce qui le conduit aujourd'hui à travailler sur la reproductibilité des objets et donc sur la question du facsimilé, je vais y arriver, patrimonial.
Oui, je fais un peu un pas de côté par rapport à tous les objets et tous les sujets qu'on traite jusqu'ici, mais c'est toujours la question du lieu, de la translocation, et même en vérité de l'ubiquité de ces objets d'art. Puisque je vais vous parler des facsimilés patrimoniaux, dont certains exemples sont très récents, par exemple Lascaux 4, puisqu'on en est déjà rendu à Lascaux 4. La grotte découverte en 1940 et fermée au public en 1963 a été copiée 3 fois en 30 ans. Sa dernière version a été inaugurée en 2016, un an après la première copie de la grotte Chauvet, dont l'original n'a jamais été ouverte au public. Et leur résultat aussi, entre environ 400 000 et 500 000 visiteurs par an, ce qui est à peu près comme le Louvre-Lens, en fait. Donc on est sur des lieux qui sont en fait parmi les lieux de patrimoine les plus visités en France hors région parisienne. Un autre particulièrement visité, c'est Versailles, où près de 200 sculptures en marbre ont été retirées des jardins parce qu'elles s'y altéraient progressivement et ont été remplacées par des moulages en marbre aggloméré depuis 2009, une grande campagne. Et cette fois, ce sont des millions de visiteurs qui passent dans les jardins, qui photographient ces œuvres sans savoir exactement leur statut quelquefois et qui les prennent en photo. Alors comment qualifier ces objets? Est-ce qu'on peut parler d'œuvres d'art? À Versailles, le conservateur refuse absolument ce terme. Il parle de produits muséographiques, mais quand on fait un petit terrain produit muséographique, ça fait partie de ces grands euphémismes assez fabuleux. Mais bien sûr, quand on demande aux visiteurs, on leur demande qu'est-ce que c'est. Eux, si on leur dit que c'est pas des œuvres d'art, si on leur demande est-ce que c'est des œuvres d'art, moi la réponse qui m'a été donnée, j'ai beaucoup aimé cette réponse, c'est mais si c'est pas des œuvres d'art, qu'est-ce que c'est? Et c'est un peu la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que c'est que ces objets au statut particulièrement singulier? Alors ils ont un cartel, ils ont un socle, ils sont photographiés, il y a des guides qui tournent autour, qui les expliquent, ils sont regardés. Enfin, ils ont un train de vie d'œuvre d'art, pour le dire comme ça. Ils ont un dispositif d'œuvre d'art. Et ils sont même d'ailleurs inscrits à l'inventaire à Versailles, même si les conservateurs ont beaucoup discuté de savoir s'il fallait les inscrire ou non, parce qu'il faut bien les conserver. Et les budgets de conservation et restauration, ils sont associés à l'inscription à l'inventaire. Donc il fallait les inscrire à l'inventaire. Donc ils ont vraiment tout le dispositif de l'œuvre d'art, ces objets. Donc voilà donc ces objets au statut singulier qui prennent la place et la lumière à la place des originaux, mais qui n'ont pas de valeur pour eux-mêmes. Leur seule valeur est construite sur leur capacité à rendre exactement l'expérience de l'original auquel ils sont associés. Et dans le cadre de cette réflexion sur les translocations, la question à moi, c'est est-ce que finalement l'unicité théorique de l'œuvre d'art fonctionne tant? Parce que ces objets fonctionnent, ils sont capables de rendre une expérience de l'œuvre d'art. Donc essayez de voir dans quelle mesure il y a une polylocation de certaines œuvres d'art. Pour reprendre le terme de translocation, ce serait plutôt une polylocation, une ubiquité, pour le dire en français, une ubiquité de l'œuvre d'art, avec des œuvres disséminées, comme Lascaux, à 4 endroits à la fois, au final. Alors, pour donner une définition de ce que je range un peu, c'est un ensemble un peu hétéroclite sous le nom de facsimilé patrimonial, on peut dire que c'est toutes les reproductions qui ont été produites par des institutions patrimoniales dans le but d'exposer une œuvre qu'elles ne peuvent pas exposer. Alors pourquoi une institution ne peut pas exposer une œuvre? La première raison, la raison la plus pour les grands chantiers en tout cas, c'est bien souvent parce que l'œuvre est trop fragile. Et c'est pourquoi on a beaucoup de sculptures de jardin ou de sculptures aussi monumentales. Il y a aussi quelques cas de sculptures monumentales qui ne sont pas dans ce tableau-là. Et puis les grottes préhistoriques. Et de fait, la chronologie du phénomène suit un peu celle de du développement du paradigme du patrimoine dans les années 80-90 et avec lui de la question de la conservation préventive des objets, une prise de conscience de la fragilité des objets. Et effectivement, ces facsimilés découlent d'une forme d'injonction contradictoire qu'on donne aux œuvres d'art dans le paradigme du patrimoine, qui est à la fois de ne pas s'altérer, on dit qu'elles doivent être conservées en l'état, et en même temps on veut les mettre en valeur parce qu'elles doivent appartenir à tout le monde, et donc il faut qu'elles soient diffusées, que tout le monde puisse les regarder. Or, dans certains cas, comme par exemple les grottes préhistoriques, ici la grotte Chauvet, il est impossible de l'ouvrir à tout le monde et qu'elle se conserve en l'état. Il y a une sorte de bug dans la machine patrimoniale qui fait qu'il faut trouver une solution, et les coordinateurs des projets disent que la seule solution, c'était la copie. Pourtant, c'est peut-être pas si évident que ça. Si on y réfléchit 2 minutes, c'est très coûteux, c'est très complexe, mais ça va pas du tout de soi de copier une gigantesque grotte préhistorique en moulage de plâtre sur lequel on va se mettre à peindre les mêmes choses que ce qu'on peint à des personnes 40 000 ans avant. Ça va pas de soi, surtout à l'époque de la 3D. On a commencé à entendre une petite polémique récemment avec une exposition numérique qui traînait dans Paris. On peut se demander pourquoi on a besoin de matière. Et là encore, une phrase de visiteur à Chauvet qui était tout à fait intéressante. Quand je leur pose la question, pourquoi il y a en ligne des reproductions numériques, vous auriez pu vous promener à l'intérieur, ils me disent, et on voulait voir en vrai. Voir en vrai la copie, voir en vrai le faux. Et là, c'est vraiment particulièrement intéressant. Parce que à ce titre, le fac-similé, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans cet objet, est profondément un objet matérialiste qui nous dit que le patrimoine, ça se passe dans un lieu qu'il faut visiter, où on va, où on se rend, où on est guidé, et avec la médiation d'objets qui sont peut-être des faux, ou des copies en tout cas, mais qui sont tout de même des objets matériels concrets. On a besoin de ces objets concrets. Donc ça nous dit beaucoup, je crois, du statut de l'œuvre d'art et des pratiques de l'œuvre d'art dans ce que j'appelle le paradigme du patrimoine contemporain. Alors, une autre raison pour laquelle on arrive parfois à faire des facsimilés, une autre raison pour laquelle on ne peut pas exposer une œuvre, c'est parce qu'on ne l'a plus. C'est le cas, par exemple, du couvent San Giorgio Maggiore de Venise, et on est là avec les noces de Cana de Véronèse, qui ont été spoliées pendant les campagnes napoléoniennes et qui n'ont jamais été restituées, malgré l'insistance des demandes de l'Italie à la France. Ça a donc donné lieu en 2007, ils ont un peu laissé tomber les Italiens, ils ont dit bon, on va faire un facsimilé. Et donc ils ont installé ce grand facsimilé avec des techniques assez complexes qui permettent de rendre la texture du tableau, facsimilé sur lequel Bruno Latour a écrit un article particulièrement intéressant, fondateur, je crois, dans lequel il prend l'exemple d'une visiteuse qui irait d'abord à San Giorgio Maggiore, qui verrait cette toile dans le lieu pour lequel elle a été conçue, avec la lumière pour laquelle elle a été conçue, etc. Et puis qui ensuite se rendrait au Louvre et verrait ce tableau engoncé dans la salle de la Joconde, vers laquelle tout le monde tourne les regards, les appareils photos, et serait en fait déçue par l'original. Stupéfait par la beauté de la copie, mais par la tristesse de l'original. Il parle de dissémination de l'aura. Moi, je parlerais de l'aura du lieu, du fait que le lieu est chargé d'une part d'authenticité. Et quand la copie, une copie exacte, retrouve le lieu original, il y a une sorte d'épiphanie, de retour de la vision originale qui porte une véritable authenticité. Il y a un autre cas pour le cas de Versailles, par exemple, c'est cette œuvre que je vous montrais déjà tout à l'heure, le Milan de Crotone de Puget. C'est une œuvre qui était sur des socles que Louis XIV a lui-même choisi, c'est très documenté. Il a choisi de les mettre à l'entrée du tapis vert de Versailles, et puis elles ont été déposées en 1819, elles sont allées au Louvre, et donc elles ont disparu des jardins. Et en 2013, à la faveur de cette campagne de moulage, on a remis les moulages sur les socles pour lesquels l'œuvre avait été pensée. En tout cas où Louis XIV voulait les placer. Et donc on a eu cette même chose, et finalement un visiteur qui serait absolument amoureux de Puget et voudrait voir l'œuvre, il pourrait, ou peut-être même il devrait aller voir les deux, c'est-à-dire voir l'œuvre originale au Louvre, mais voir aussi l'environnement original, la vision originale, celle que Louis XIV avait pour les jardins de l'œuvre à Versailles. Alors là où ça devient un peu plus vertigineux et passionnant, c'est que bien sûr les objets bougent, et ils n'arrêtent pas de bouger, et ils sèment des origines un peu partout où ils passent. Donc partout on peut revendiquer le fait d'avoir un facsimilé qui a du sens. Alors là j'ai pris l'exemple de Marseille, puisque Puget étant marseillais, ils ont aussi un moulage sur le Vieux-Port qui date de 1916. Il y en a aussi un à Toulon, au Musée des Beaux-Arts, puisque le Milan de Crotone a été sculpté à Toulon. Alors plus amusant, à Crotone même, alors bien sûr Puget n'est jamais passé par Crotone, mais Milan de Crotone étant dans la légende associé à Crotone, la commune de Crotone a demandé en 2015 à la RMN, a acheté à la RMN un exemplaire pour le mettre sur la place publique et dire voilà, c'est notre Milan de Crotone, il est à nous. Donc là, on a vraiment un objet qui est à plein d'endroits à la fois. Alors, Bruno Latour a une formule que j'aime bien, il plaide pour étudier la trajectoire des œuvres. Et il dit, on a beaucoup regardé, on a beaucoup cherché la source du Nil, et on a oublié de regarder tout le bassin hydrographique. Et il dit, c'est par les copies qu'il faut, comme ça, essayer d'aller un peu descendre de l'amont vers l'aval, et essayer de voir tout ce que l'œuvre a pu produire. Et si on prend cette étude, on donne droit à la mobilité de l'œuvre d'art, et le facsimilé vient matérialiser en quelque sorte cette mobilité, c'est-à-dire que tous les lieux qui se réclament d'une intimité réelle ou fantasmée dans le cas de Crotone avec l'œuvre peuvent imaginer d'avoir un facsimilé qui rend présent l'œuvre d'une certaine manière. Alors, si on prend vraiment au pied de la lettre cette injonction, ce conseil de Bruno Latour d'étudier tout le bassin hydrographique d'une œuvre qui nous intéresse, on arrive sur des séries tout à fait gigantesques, parce que lui, il ne s'arrête pas au facsimilé, ça peut aller jusqu'aux magnètes sur les frigos, aux cartes postales, qui sont toutes des séries d'objets gigantesques qui rendent présent à plein d'endroits à la fois l'œuvre originale. Et qui sont des séries solidaires de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que quand on a un magnète sur son frigo, on pense à l'œuvre d'art. Donc c'est vraiment une approche tout à fait intéressante, le facsimilé ayant une place assez singulière là-dedans, c'est-à-dire que c'est une présence très vive de l'œuvre d'art, à travers le facsimilé. Et là, je pense qu'on peut utiliser je travaille sur les copies de reliques au Moyen-Âge, donc j'utilise un petit peu dans l'anthropologie historique quelques travaux, par exemple ceux d'Alfred Gell. Et là, la personnalité disséminée d'Alfred Gell me semble tout à fait indiquée pour parler de ces objets un peu doués d'ubiquité, pour lesquels il y a un agent de l'œuvre d'art qui se dissémine à travers des copies. Tout ça est très hiérarchisé, il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose, mais il y a tout de même une copie est capable de rendre présent une part de l'expérience de l'œuvre originale. Voilà, alors j'avais un autre arc, mais bien sûr que je savais que je ne pourrais pas présenter, mais j'ai mis quand même, j'ai fait exprès. Bon, mais voilà, le facsimilé est intéressant parce qu'il montre la complexité géographique de l'œuvre, il donne droit à la mobilité de l'œuvre, mais il y a aussi un autre arc qui donne droit à la complexité historique et temporelle de l'œuvre. C'est-à-dire que dans le facsimilé, vous avez à la fois le peintre préhistorique, mais aussi Monique Pétral, qui en 1983 s'est mise à copier Lascaux. Et quand vous allez à Lascaux 2, on vous raconte cette histoire. Donc il y a comme ça ces différentes époques qui se répondent. Et récemment, il y a eu un article très amusant, puisque Lascaux 2 et Lascaux 4 sont rentrés en concurrence, Lascaux 2 étant jugé une grotte authentique, plus authentique que Lascaux 4, ultra moderne. Et donc là, on arrive sur des débats qui sont passionnants, de valeur, sur des objets qui pourtant sont des copies d'une même œuvre, sans que jamais ça remette en cause la capacité de la copie à rendre l'original. Donc là, on a vraiment des expériences qui se démultiplient, qui sont tout à fait intéressantes. Mais pour la question des translocations, c'est vraiment cette façon dont l'œuvre est capable d'aller être à plusieurs endroits à la fois, et comment le facsimilé donne droit à sa mobilité, en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, l'œuvre est figée, l'œuvre ne peut plus bouger, on l'a un peu sanctuarisé. Et donc le facsimilé est rafraîchissant et amusant et intéressant en cela qu'il permet de la bouger à nouveau, de la mettre à nouveaux endroits, ce qui dans le contexte des questions de translocation me semble intéressant.
Voilà. Merci Nicolas.
J'aurais tout de suite une question. Non, mais c'est un sujet qui me passionne aussi et sur lequel je travaille aussi en ce moment, donc il faudrait qu'on échange plus en détail des notes. Je vais d'ailleurs probablement reprendre polylocution. Voilà, on parlera du copyright après. Je voulais savoir comment tu travailles sur la différence entre réplique et copie, parce que c'est quelque chose qui est problématique pour moi aussi dans mon travail. Et ce que tu fais de cette question de la qualité de la copie est-ce que l'aura peut aussi être remplacée d'une certaine façon par la fascination pour la qualité de cette copie. Enfin, je pense notamment dans le cas des Noces de Cana, où vraiment le visiteur peut aussi être tout à fait émerveillé par cette nouvelle qualité technique. Et voilà, bon, je vais pas.
Mais sur cette question, alors copie et réplique, comment. En fait, moi je travaille sur le Moyen-Âge, je travaille sur des copies de reliques qui parfois ne ressemblent pas vraiment à la relique, donc je suis assez libre sur toutes ces questions. C'est-à-dire que des fois, le simple fait d'avoir qu'un objet ait touché une relique, par exemple, devient une sorte de relique par contact. Donc si on prend cette option très large, on peut rentrer plein de choses dans le terme de réplique, c'est-à-dire de représentation, j'aime bien le terme de représentation qui est tout bête, mais qui permet de dire qu'on essaye de remettre en présence de l'objet. Copie, réplique, moi j'utilise le terme de facsimilé qui me semble, pour une œuvre de patrimoine qu'on recopie entièrement, être ce qui est le plus simple. Après, il me semble que réplique, ça a un peu un autre sens, donc je ne l'utilise pas. Et pour la question de, oui, effectivement, ces valeurs qui se contredisent, c'est très amusant, parce qu'à Lascaux 4, par exemple, on vend une copie ultra-moderne. Donc là, on essaye de vendre ça. Mais il y a d'autres façons, on va dire, de charger la copie. Parce que tout l'enjeu, c'est que la copie, c'est un peu une coquille qui risque un peu d'être une coquille vide. On a très peur qu'elle ait l'air bête. Donc il y a tout un discours qui se construit autour. À Chauvet, ils ont tout un discours sur les cinq sens. Comment on a copié l'odeur de la grotte. Donc voilà, donc ça, c'est tout une autre façon de faire. À Chauvet, c'est d'ailleurs très malin, parce qu'à mon avis, Chauvet est une copie, enfin bon, c'est mon opinion que j'ai peut-être pas à donner, mais Chauvet, en tout cas, une copie qui marche mieux. C'est marrant sur de TripAdvisor, quand on regarde les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent le Lascaux 4, on n'est pas ému, ça marche pas, alors que Chauvet, ça fonctionne. Et pourquoi ? Parce qu'à Chauvet, ils ont donné droit à la parole des copistes. C'est-à-dire qu'ils ont raconté l'histoire des copistes. Quand on visite la grotte de Chauvet, ils nous racontent qu'il y a des copistes qui ont peint pendant des heures. Alors Lascaux, ils ont eu très très peur de ça. Ils se sont dit, on va surtout pas en parler, parce que ça va casser l'expérience. Et en fait, c'est faux, parce que l'expérience des copistes donne encore plus de valeur. Et donc, on a vraiment un feuilletage de valeurs d'ancienneté, de plein de valeurs qui s'ajoutent pour finalement réussir à charger cette grotte d'une expérience patrimoniale, d'œuvre d'art, comme on veut appeler ça.
Et justement, pour répondre, pour continuer là-dessus, Bruno Latour a parlé de réseaux sociaux techniques. Et en fait, comment on fabrique les copies ? Est-ce que, en fait, tu as vu des grandes typologies de fabrication de ces facsimilés ?
Oui, alors ça dépend. Alors, il y a tout ce qui est technique de reproduction mécanique. Donc, par exemple, pour Versailles, ça va être les techniques les plus pointues de reproduction par moule en silicone, etc. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, mais bien sûr, alors, c'est toujours ce qu'on vend. Par contre, moi, je suis allé aux ateliers de la RMN, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a tout un travail, par exemple, où quand l'œuvre sort du moule, il faut retoucher certains points qui ont des mauvaises... Donc en fait, il y a toute la main d'un mouleur qui n'a absolument pas le droit de citer, qui n'existe pas dans le truc. Pourtant, il est vraiment un créateur de l'œuvre, enfin de l'objet final, mais il n'existe pas, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que dans 50 ans, on regardera ces objets et on mettra atelier RMN. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est. Eh oui, parce que pour l'instant, il faut surtout qu'ils soient alignés sur l'original, quoi. S'ils sont valorisés pour eux-mêmes, tout s'écroule. Il faut qu'ils soient valorisés en tant que copie de l'original. Et ce qui est très intéressant, alors là, c'est vraiment fascinant, mais ce serait trop long, c'est qu'entre Lascaux et Chauvet, il y a deux ateliers, en fait, deux ateliers de facsimilés qui peignent tous les deux à la main. C'est impossible pour l'instant de faire des copies 3D techniques. Donc, c'est des techniques qui n'existent pas encore. Mais par contre, ils ont deux techniques. Ils s'opposent en termes de technique. En tout cas, ils ont un discours qui dit qu'ils s'opposent en termes de technique. Ils travaillent à Montignac tous les deux, dans la même rue, mais ils se détestent. En tout cas, quand on les interroge, c'est assez clair. Et il y en a un à Lascaux. À Lascaux 4, ils disent on pratique la copie photographique au pixel. C'est-à-dire qu'on rétroprojette sur la paroi l'image et on fait point par point. Et à Chauvet, dans une démarche presque mystique, mais absolument passionnante, ils disent qu'ils veulent refaire le geste. Donc ils disent on refait 15 fois, mais il faut refaire le geste. Alors c'est peut-être pas au centimètre, mais il y a l'intention. Et eux pensent que cette intention va donner plus de qualité à la copie, va donner plus d'émotion à la copie. Ça pose vraiment la question de ce qu'on met derrière l'œuvre d'art. En fait, le facsimilé, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'on attend d'une œuvre d'art. Puisqu'on la copie, ils disent qu'est-ce qu'on attend de l'œuvre d'art. Et en l'espèce, on attend qu'elle nous émeuve, on attend qu'elle ne coûte pas trop cher. Enfin, tout ce qui est dans le cahier des charges, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre d'un objet de patrimoine. Donc c'est pour ça que cet objet est particulièrement amusant à regarder.
Et passionnant. Merci Nicolas.
Donc maintenant, nous allons écouter Maxime Georges Métraux et Léa Saint-Raymond. Léa, que je n'ai plus trop besoin de vous la présenter, mais qui a fait sa thèse donc, sur l'histoire du marché de l'art à Paris. Le titre « Le Paris des enchères, le lancement des nouveaux marchés artistiques à Paris entre les années 1830 et 1939 ». Et Maxime Georges Métraux, qui est doctorant en histoire de l'art à Sorbonne Université et qui enseigne également à l'Université de Paris-Est et Marne-la-Vallée. Et ils vont nous parler de conserver à tout prix ou restituer le séquestre de la collection Matsukata 1944 à 1959.
Merci beaucoup, Felicity. Donc Maxime Georges Métraux et moi-même avons le plaisir de vous présenter un projet de recherche que nous menons conjointement sur le séquestre de la collection Matsukata. Cet exemple bien particulier ajoute une nouvelle typologie dans les translocations que nous avons abordées dans cet atelier. Kojiro Matsukata était le fils du premier ministre japonais et après des études aux États-Unis, il fit fortune dans la construction navale. Cette firme correspond aujourd'hui aux Aibatsu Kawasaki. Dans les années 1920, Matsukata séjourne en France où il se lie d'amitié avec de nombreux artistes et il constitue une collection très importante d'art occidental contemporain. Il était également très proche de Léonce Bénédite, conservateur du musée du Luxembourg, et du peintre Frank Brangwyn, qui tous deux le conseillèrent dans ses acquisitions. Matsukata avait pour ambition de constituer un musée d'art français au Japon, mais il n'eut pas l'occasion de réaliser ce projet. Particularité de sa collection qui s'élevait à près de 10 000 pièces, celle-ci était stockée en plusieurs lieux en Angleterre, en France et au Japon. Ce premier ensemble fut dispersé dès 1929 suite à la crise économique. Matsukata conserve néanmoins une partie des œuvres en France, mais il est dans l'incapacité de les rapatrier au Japon, notamment à cause des frais de dédouanement. Survient alors la Seconde Guerre mondiale. Matsukata charge Kozaburo Ioki, son homme de confiance, de protéger sa collection. Et en 1940, Ioki transporte les tableaux à Abondant, petite commune d'Eure-et-Loire. Mais les sculptures sont conservées au musée Rodin. Le Japon étant l'ennemi de la France, les avoirs de Matsukata ne parviennent pas à Ioki. Et celui-ci est obligé de vendre épisodiquement des œuvres pour subvenir aux frais de conservation. Par exemple, Ioki aurait vendu cette marine d'Édouard Manet à Raphaël Gérard le 28 avril 1944, puis elle aurait été acquise par Hildebrand Gourlitte en 1953. Retracée à partir des archives du marchand, cette trajectoire est néanmoins sujette à caution et interroge la frontière entre achat et translocation durant la guerre.
À la Libération, une ordonnance gouvernementale place les biens ennemis sous séquestre, dont ceux des ressortissants japonais. Le 16 décembre 1944, par ordonnance du tribunal civil de la Seine, les biens de Matsukata sont placés sous séquestre. La garde de ceux-ci en est confiée à la direction des domaines de la Seine. Du 10 septembre au 13, la collection est alors transférée au musée d'art moderne, dont le conservateur en chef, Bernard Dorival, est chargé d'en dresser l'inventaire. Les sculptures, quant à elles, sont toujours au musée Rodin, donc en 1945. Dorival découvre le contenu des caisses et il écrit immédiatement à Georges Salles, alors directeur des musées de France, je cite, « En vous priant de trouver joint cet inventaire estimatif, je me permets d'attirer respectueusement votre attention sur l'extraordinaire importance de cette collection, qui ne groupe pas moins de 58 sculptures et 336 tableaux, aquarelles et dessins. L'importance qualitative égale l'importance numérique, puisque, à côté d'œuvres médiocres, elle comprend aussi des pièces d'une valeur inestimable, parmi lesquelles il faut relever le plus important ensemble de sculptures du Rodin qui existe au monde après celui du musée Rodin, mais également 6 bronzes de Bourdel, 8 tableaux de Courbet, dont les paysans de Flagey revenant au marché, une quinzaine de peintures de Claude Monet, 7 aquarelles de Cézanne, dont une magistrale vue de la montagne Sainte-Victoire, un magnifique ensemble de 8 chefs-d'œuvre de Gauguin, des pièces maîtresses de Millet, Manet, Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Picasso, ainsi que d'importants tableaux de Bonvin, Delacroix, Maurice Denis, Fantin-Latour, Fielding, Forain, Lépine, Marquet, Pissarro, Puvis de Chavannes et Soutine. Dorival conclut ainsi. Il serait donc du plus haut intérêt pour les départements de la peinture, de la sculpture, des dessins, de l'art moderne et des musées de province de se voir attribuer, sinon la totalité, du moins une partie de la collection mise sous séquestre de M. Matsukata.
À partir de cet inventaire de 1945, l'affaire Matsukata fait l'objet de nombreuses tractations et débats internes. Sans pouvoir malheureusement entrer dans les détails, deux visions s'affrontent pour statuer sur le sort des chefs-d'œuvre de la collection, sachant que les œuvres dites « médiocres » sont destinées à être restituées au Japon. D'un côté, la vision de Bernard Dorival et de Germain Bazin, conservateur des peintures au Louvre, qui incarne une vision patriotique et patrimoniale, et qui souhaite, je cite, « conserver à tout prix les chefs-d'œuvre de la collection Matsukata pour les musées nationaux ». Pour eux, cette collection constitue, je cite, « un enrichissement inespéré pour les musées français, beaucoup plus important que tout ce que nous avons récupéré en Allemagne ». De l'autre, la vision plus diplomatique du ministre des Affaires étrangères Robert Schuman et, sous son autorité, de l'Association française d'action artistique dirigée par Philippe Erlanger. Et dans un raisonnement de type soft power, ils disent qu'il est préférable de restituer aux Japonais certains chefs-d'œuvre pour assurer pour le mieux le rayonnement de notre influence artistique dans le monde. Même s'ils ne sont pas en position de force dans les négociations avec la France, les Japonais ne restent pas inactifs.
Il n'y a donc pas eu une ligne directrice unique sur le devenir du séquestre, ce qui rend la translocation complexe. L'administration des domaines organisa 2 ventes, une en 47, une en 53, pour assurer les frais de conservation et indemniser Yoki. 23 œuvres furent alors dispersées, dont un paysage de Courbet, 2 Maurice Denis, 4 Monet, 5 Marquet et l'autoportrait de Fantin Latour, qui a été finalement acquis quelques années plus tard par Émile Burle, dont une exposition lui est actuellement dédiée à Paris. En 1950, l'ambassade de France au Japon négocia avec la famille Matsukata la levée du séquestre par le gouvernement français, sous certaines conditions, plus tard fixées par le traité de paix du 8 septembre 1951. Celui-ci conférera à l'État français la légitime propriété de la collection Matsukata. De fait, la France accepterait de donner au Japon, et non pas de restituer, une importante partie de cette collection afin de constituer un musée d'art français. Moyennant ce don, des pièces resteraient néanmoins propriété de l'État français. Cela explique notamment que les cartels des œuvres actuellement conservées dans l'Hexagone indiquent entrée en application du traité de paix avec le Japon, comme pour cette nature morte de Gauguin exposée actuellement au musée d'Orsay.
Et la liste des œuvres à conserver à tout prix fut l'objet de longues tractations et en 1953, à la suite d'une intervention de Robert Schuman, les musées français durent renoncer aux parisiennes habillées en algérienne de Renoir et à la vague de Courbet. Toutes les autres œuvres furent données à l'État français à l'État japonais par l'État japonais. Non, pardon. Furent données à l'État japonais par l'État français et non aux héritiers Matsukata qui renoncèrent définitivement à toute revendication sur la collection. Et donc les œuvres furent remises officiellement à l'État japonais le 23 janvier 1959 et présentées dans le Musée national d'art occidental construit pour l'occasion par Le Corbusier à Tokyo.
En comparant les inventaires de l'époque et ceux des musées, certaines œuvres semblent avoir disparu ou sont peut-être restées dans les réserves des musées français. En 1955, Georges Salles et Bernard Dorival avaient considéré, je cite, qu'il est inutile de faire figurer les œuvres détériorées sur la liste des œuvres adressées à notre ambassade à Tokyo pour servir de liste officielle. Parmi celles-ci, l'inventaire mentionne notamment 2 peintures de Corot, 4 Degas, une maternité d'Eugène Carrière et un tableau de Monet. En mars 2018, les nymphéas endommagées ont été retrouvées dans les réserves du Louvre et rendues au Japon. Cette translocation continue donc à faire parler d'elle. D'autant plus qu'en juin, une exposition sur la collection Matsukata ouvrira ses portes au Musée national d'art occidental de Tokyo. Au même moment, nous aurons la chance de présenter nos travaux lors d'un colloque à l'École normale supérieure et d'en publier les premiers résultats dans la revue Noto, dirigée par Alexandre Curnier, ici présent, et que nous saluons chaleureusement. Nous vous remercions de votre attention et attendons impatiemment vos questions.
Merci pour cette perspective insolite. C'est vraiment un cas très intéressant.
Dans ce carton Matsukata, parce que là, on vous a résumé vraiment très brièvement ce qu'il y a dans ce carton qu'on vous a montré. Mais il y a également des lettres d'avocats, notamment en 1949-50. Un Américain, en fait, rédacteur de Art News, aurait vu cette collection où on aurait entendu parler. Et en fait, il demande à Jean Cassou s'il peut acquérir lui-même cette collection. Et donc, ce qui presse en fait les musées français, se dire bon, les Américains sont sur l'affaire, il faut absolument se dépêcher de faire quelque chose avec le séquestre Matsukata. Donc, et en effet, il y a beaucoup de l'aide d'avocats dans ce dossier.
Je voulais juste revenir sur ce moment de la donation, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a eu un déclenchement qui a fait que cette décision de la donation a été prise? Ou peut-être j'ai raté, vous l'avez peut-être expliqué, mais je me demandais juste s'il y a eu un élément déclencheur de la décision, finalement, de la donation à l'État japonais.
Bah, en fait, il n'y en a pas 15, parce que c'est une histoire en fait, qui court quand même de 44 à 59. Ouais. Et donc, c'est une histoire qui est compliquée dans le sens où, d'un côté, voilà, par l'État français, il y a une vision qui est plutôt une vision patrimoniale, on conserve, une vision qui est plus diplomatique, qui est la vision de... D'accord. On fait rayonner la France, mais de l'autre, les Japonais ont aussi leur propre calendrier. Et ce dont a peur l'État français, c'est que les Japonais, en fait, reprennent la collection, mais ne la valorisent pas. Et en fait, l'enjeu aussi porte sur la création d'un musée. Mmh. Et donc, il y a aussi tous les traités de paix qui sont signés. En fait, les Français ont parfois peur, pendant une période, de perdre la collection et la propriété de celle-ci. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont multiples. Et en fait, dans les archives, on peut voir qu'à un moment, la diplomatie française s'engage à mettre les œuvres dans le bateau à partir du moment où les murs du musée sont hors sol. Comme ça, ils ont une certitude que voilà, on peut envoyer. Et de même, de l'autre, les Japonais, en fait, doivent eux le plus rapidement possible réunir les fonds et faire construire ce musée. Donc voilà, c'est plusieurs calendriers qui s'affrontent.
En fait, ça appartient à... Il y a deux phases. Jusqu'au traité de paix de 1951, cet ensemble est gardé par l'administration des domaines. Et à partir du traité de paix de 1951, la collection devient la propriété de l'État français. Mais jusqu'alors, ces deux ventes-là, en fait, ce sont les domaines qui décident de la vente en fait, en toute légalité pour couvrir les frais, on va dire. Voilà. Et c'est un accord, il y a des dizaines de lettres en fait, pour ça, en fait, un accord avec la direction des musées de France. Hein. Donc c'est un commun accord, les domaines demandent au musée de France qu'est-ce qu'on peut choisir comme œuvre qui n'endommagerait pas l'ensemble. Les musées de France répondent, et après c'est l'administration des domaines qui vend. Et d'ailleurs la deuxième vente, celle de 1953, elle se fait dans la salle des domaines, donc au 104 rue Richelieu, et non pas à l'hôtel Drouot, contrairement à la première. Donc déjà, je vous présente Pauline Michaud, qui fait partie des fidèles parmi les fidèles de cet atelier. Donc Pauline Michaud est diplômée d'un master de muséologie et ses premiers travaux de recherche concernent le développement de la muséographie entre la France et la Grande-Bretagne au XXe siècle. Et ça ne marche pas. Et elle est actuellement en première année de doctorat en co-direction avec Paris 1 et l'École du Louvre. Et donc Pauline va aujourd'hui nous parler du statut muséographique du cadre. Elle va soulever certaines questions liées au statut du cadre par l'étude des acquisitions du musée du Louvre au XXe siècle.
Alors tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement Léa et Felicity pour m'avoir invitée à vous présenter cette courte présentation extraite de mon sujet de mémoire. Donc, comme Léa vous l'a précisé, donc je travaille sous la direction de Monsieur Poulot à l'Université Paris 1 et de Madame Chastel-Rousseau à l'École du Louvre. Mon sujet de doctorat est plus spécifiquement consacré aux collections de cadres de tableaux dans les musées européens au cours de la première moitié du XXe siècle. Ma présentation s'attachera à vous présenter les grandes orientations de mes recherches ainsi que quelques questions soulevées par l'étude des acquisitions du musée du Louvre. Si la manière dont les artistes pensent l'encadrement de leurs œuvres commence légèrement à être étudiée, les demandes de peintres comme Ingres, Poussin ou Seurat pour l'encadrement de leurs œuvres sont assez connues, la manière dont les musées pratiquent l'encadrement est encore largement inexplorée. Pourtant, ce choix de l'association du cadre et de la peinture influence la perception de l'œuvre par le public et constitue également un niveau de discours sur l'art que produit le musée lui-même. J'ai donc souhaité me concentrer sur le cadre comme objet muséographique par excellence. Le point de départ de mes recherches est le renouvellement de l'association des cadres et des tableaux au tournant du siècle. Il était alors d'usage que les peintures soient encadrées selon le goût du collectionneur qui a donné l'œuvre ou a légué l'œuvre au musée, ou bien que le musée impose une sorte d'uniforme, une bordure souvent simple en pâte composite dont vous avez un exemple à gauche à l'écran. Pourtant, à la toute fin du XIXe siècle, l'historien d'art et directeur du Kaiser Friedrich Museum, Wilhelm von Bode, est à l'origine d'une nouvelle pratique à partir de laquelle les musées encadrent encore aujourd'hui les tableaux. Entre 1890 et 1920, Wilhelm von Bode a publié 5 articles qui proposaient d'étudier l'évolution stylistique des cadres italiens principalement, mais surtout il critiquait la manière dont les œuvres étaient encadrées dans le musée qu'il dirigeait. Vous avez ici la première page de son article fondamental, Bilderrahmen in alter und neuer Zeit, publié dans la revue Pan en 1890. Bode recherchait ce qu'il appelait le bon effet et précisait que la peinture devait être encadrée par une bordure stylistiquement et historiquement cohérente avec l'œuvre d'art. Donc les recherches sur l'évolution des styles sont fondamentales afin de proposer l'encadrement le plus authentique. La notion d'authenticité est ici très problématique. Et dans un article publié après la Seconde Guerre mondiale en France, le conservateur Germain Bazin, encore lui décidément, propose un bilan de l'action du Louvre concernant l'encadrement en précisant que l'impulsion fut donnée par les musées berlinois, américains et hollandais. La compréhension de la diffusion de ce principe d'encadrement parmi les conservateurs européens est donc une problématique au centre de mon sujet de recherche. Au cours de mon doctorat, je vais me concentrer sur les pratiques de quelques grands musées, à savoir le Louvre, la National Gallery de Londres et la Gemäldegalerie Gallery, afin de comprendre la manière dont ces institutions peuvent adopter, rejeter ou aussi adapter le principe proposé par Bode. En outre, adopter un encadrement historiquement et stylistiquement cohérent avec l'œuvre suppose que les musées disposent de suffisamment de cadres pour pouvoir les associer au style et à l'époque des peintures. Les acquisitions de cadres anciens qui en découlent sont donc particulièrement importantes. Pour l'instant, mes recherches se sont concentrées sur le musée du Louvre, car les archives et la documentation concernant ce musée sont plus facilement accessibles. Vous avez à l'écran une partie de la réserve des cadres du Louvre. C'est une photo qui a été publiée dans un article qui faisait la présentation d'une petite exposition dossier sur les cadres qui était présentée l'été dernier au musée du Louvre. Donc, je préciserai de manière préliminaire que la collection de cadres du Louvre se compose d'un fonds ancien hérité des collections royales que l'on peut à peu près dénombrer à 200 cadres.
avec des passages un peu obscurs entre Versailles et le Louvre. Des dons de cadres en petit nombre au cours du XIXe siècle et dans les toutes premières années du XXe siècle. Par exemple, le cadre de la Joconde a été donné par la comtesse de Béarn en 1906. Mais à partir des années 30, les choses semblent s'accélérer. Les dons et legs ont été beaucoup plus conséquents. J'évoquerai très brièvement le don en 1935 d'un grand collectionneur du XVIIIe siècle et de l'impressionnisme, Jules Strauss, qui fit don en 1935 de 54 cadres pour les peintures italiennes de la Grande Galerie. Et il a lui-même choisi les œuvres qu'il souhaitait réencadrer. Donc, par exemple, toutes les œuvres de Raphaël ont eu un cadre choisi par ce collectionneur. En 1944, la fille d'un marchand de cadres qui s'appelait Ernest Dalbret a légué plus de 600 cadres au musée du Louvre, notamment un ensemble exceptionnel de cadres hollandais et espagnols qui manquaient cruellement au musée. D'autre part, les achats propres, les acquisitions propres du musée du Louvre sont très importantes et engendrent de multiples questions. Tout d'abord, une question chronologique, puisque la principale période d'acquisition de ces cadres au Louvre se situe peu avant, mais surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. La documentation du Louvre rassemble un nombre de devis et de mémoires pour des achats ou des adaptations de cadres qui est mirobolant. J'estime, en comptant les deux legs dont je vous ai parlé, les entrées de cadres au Louvre entre 1939 et 1945, à 900 pièces. Aussi, l'origine du lancement des acquisitions, de ce mouvement d'acquisition au Louvre est encore floue. Germain Bazin a rédigé deux rapports sur les encadrements où il précise que depuis une quinzaine d'années, les musées américains achetaient massivement des cadres en France. Cet argument est ainsi utilisé comme un levier pour susciter un mouvement d'acquisition justement au Louvre, et on peut se demander cela ferait partie d'une forme de résistance à une translocation. Les cadres étant achetés par les musées américains, il faudrait empêcher cette exportation en faisant de même. Aussi, la pratique muséographique outre-Atlantique plébiscitant les period rooms, la demande en cadres anciens était particulièrement importante puisqu'il fallait constituer des ensembles cohérents, ce qui peut justifier ces mouvements d'acquisition par les musées américains en France. D'autre part, Germain Bazin expose dans ce même rapport que le stock de cadres français en France est proche de l'épuisement, car, je le cite, « les conservateurs des musées allemands ont une tendance marquée à profiter des facilités que leur donne l'occupation pour constituer en Allemagne des réserves de cadres français ». Fin de citation. Ici, on pourrait parler d'une accusation plus directe de translocation, face à laquelle Germain Bazin souhaite donc développer les achats de cadres. Malgré ses efforts, Germain Bazin constate une forme d'échec en soulignant qu'en 1943, en raison des bombardements notamment à Berlin et à Cologne, les stocks de cadres constitués par les Allemands ont été brûlés et donc ce déplacement massif est totalement vain. Enfin, plus personne ne pourra jamais les utiliser. De ce fait, le statut d'œuvre d'art du cadre paraît confirmé. Puisque les cadres anciens étant revendiqués et recherchés par plusieurs pays et plusieurs musées, il en résulte une augmentation de sa valeur économique et symbolique. Une autre question liée à ces acquisitions est celle de la provenance. D'après les archives et la documentation consultée au Louvre, le musée n'achète pas en salle de vente. Toutefois, je parle sous l'autorité de Léa, il me faudra vérifier dans les archives des commissaires priseurs la véracité de cette idée. Germain Bazin et son assistante Christiane Aulagnier ne traitent qu'avec des marchands de cadres de la place parisienne. Les achats à l'étranger n'interviennent qu'après la Seconde Guerre mondiale et sont très peu nombreux. Donc il faut aussi bien resituer dans le contexte du marché de l'art parisien ces mouvements de cadres et essayer de comprendre le circuit par lequel les marchands de cadres s'approvisionnent éventuellement en salle de vente et ensuite le musée achète à ces marchands. Un autre axe important de mes recherches est le rapport entre l'acquisition des cadres et des peintures, mais aussi à la réorganisation générale du musée du Louvre. puisque à partir des années 1934, plus précisément, Henri Verne propose un regroupement général des collections par département. Donc le département des peintures dans le Louvre fait l'objet d'une réorganisation très importante. Et cela donne un indice de l'importance muséographique du cadre. Au-delà de l'importance des acquisitions pendant la Seconde Guerre mondiale, il faudrait envisager le déplacement des cadres à l'échelle du musée. Arnaud Bertinet vous a parlé ici même, il y a quelques semaines, du déplacement des œuvres du Louvre dans le contexte des guerres de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Contrairement aux peintures, qui furent mises à l'abri hors de Paris, les cadres sont demeurés au musée, mais changèrent plusieurs fois de lieu de conservation. Les images que je vous présente à l'écran sont assez connues, notamment pour vous montrer justement le déplacement des peintures, mais les cadres sont bien là. Et si vous devrez me faire confiance, mais l'image en haut à droite, en fait, il y a des inscriptions à la craie qui donnent le nom des tableaux qui se trouvaient originellement dans ces cadres. En guise de conclusion, voici donc d'autres sujets qui vont m'occuper prochainement. L'étude de provenance des cadres avec cette question du lien entre le marché de l'art, les musées, les collectionneurs et les musées pour proposer une histoire du goût dans le contexte muséal. Un historique de l'encadrement, je voudrais arriver à produire une sélection de tableaux et de retracer en fait leur encadrement successif. Et enfin, observer l'intégration des pratiques d'encadrement dans les modifications muséographiques au XXe siècle, puisque l'acquisition des cadres, les politiques de réencadrement se font en parallèle de restauration, de modification de l'accrochage, de réflexion sur l'éclairage, par exemple. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Pauline. Merci.
Voilà, j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter Lotte Arndt. Lotte qui a... dont la thèse a été publiée en 2016 sur les revues font la culture, négociations dans les revues culturelles africaines éditées à Paris entre 1947 et 2014. Aujourd'hui, elle va nous présenter par contre un autre projet qui lui aussi a été publié en 2016, il me semble. Crawling, Rampé dédoublé. Ah, donc c'est la traduction.
C'est un double titre.
Ah, c'est un double titre, on a le double titre. Non. Donc, Collecte coloniale et affect, rempli dédoublé. Un ouvrage qui a aussi vu la collaboration avec de nombreux artistes, quelque chose qui est un peu le signe distinctif de ton travail d'une façon générale. L'hôtel enseigne également à l'École supérieure d'art et de design de Valence et nous sommes très contents qu'elle va nous présenter son ouvrage aujourd'hui.
Oui, absolument. Merci beaucoup, Felicity. Voilà, je vous le fais passer. Et à Léa pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici et aussi que cette image fonctionne parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que ça n'allait pas fonctionner. Alors du coup, vous voyez les images du livre qui tournent en boucle pendant que je vais en parler assez rapidement, n'est-ce pas ? Alors du coup, ce que je présente switch un peu le registre par rapport aux présentations d'avant, parce que ce n'est pas un projet qui est en cours, mais comme vous l'avez compris, c'est un projet qu'on a fini en 2016 en collaboration avec l'artiste Mathieu Clébeillé à Boninck, qui vit maintenant à Sète, et Catalina Lozano, qui est une curatrice colombienne basée à Mexico. Et on a mené ce projet à partir de la 8e Biennale de Berlin, qui s'intéressait particulièrement à la question comment les artistes contemporains s'emparent du champ des musées ethnographiques et de leur lecture, relecture, contestation au sein de ces musées existants. La 8e Biennale de Berlin a choisi de montrer une partie des artistes invités au sein même des musées de Dahlem en cours de se questionner sur leur propre sort, puisqu'ils étaient en train de préfigurer le déménagement vers le Humboldt Forum qui est en train d'être construit et d'être mis en place. Du coup, ce que je vais vous présenter se situe au carrefour entre ce retournement ou cette inversion du courant primitiviste dans le cadre duquel c'était les artistes européens qui se rendaient dans les musées d'ethnographie pour renouveler leur écriture plastique, alors que depuis une bonne dizaine d'années, si ce n'est qu'un peu plus, on assiste à un moment où les musées d'ethnographie font largement appel aux artistes pour pouvoir interroger leurs collections problématiques et souvent pour pouvoir proposer des œuvres qui soit vont être intégrées dans le musée, soit vont être montrées dans des expositions temporaires et disparaître après. Vous connaissez peut-être la réflexion d'un théoricien qui s'appelle Alförster, qui dès 1995 a appelé l'attention sur le fait que ces musées souvent se débarrassaient d'une partie de la pratique critique qu'ils devraient faire par rapport à leur propre histoire, en invitant des artistes et en mettant en mettant à l'extérieur de leur propre fonctionnement ce travail critique. Notre situation était différente dans le cadre de la Biennale de Berlin, puisque c'était un travail dans le champ de l'art qui s'effectuait, et c'est justement là-dessus que j'aimerais bien pointer l'attention aujourd'hui, parce que le projet que proposait Mathieu Cahabonnac était donc d'utiliser ce cadre de l'art contemporain pour pouvoir apporter un regard critique sur le mode de fonctionnement des musées d'ethnographie, sans pour autant intervenir directement à l'intérieur de cela. Il a donc, au lieu de présenter un travail lui-même sous forme d'objet, ouvert la salle qui lui était dédiée pour y faire germer des larves de moustiques et faire intervenir ou inviter des personnes en discussion autour de quatre grandes tables rondes qu'on a donc conçues ensemble, qui s'intéressaient aux insectes et aux classements, de la question de l'entomophilie et de l'entomophobie, la façon comment les artistes se prennent aux institutions, à l'héritage colonial des musées et des expositions, à la question du démembrement et de la dépossession dans les objets et les objectifications, et finalement celle des restes humains et de leur avenir dans les musées ou au-delà des musées. Ces quatre tables rondes ont été donc menées dans le cadre de la Biennale et nous ont ultimement menés à fabriquer ce livre ensemble, qui n'est pas le dernier chapitre de nombreuses collaborations qui continuent à être en place. Pourquoi cette histoire de l'entomophobie ? Je vais juste en dire deux ou trois mots très rapidement, parce que c'est quand même, ça ne va pas de soi pourquoi on a un titre dans lequel on se transforme, on se dédouble en insecte. Il se trouve que le grand-père de Mathieu, qui était au cœur de sa pièce, était entomologiste au Gabon, à Dakar et à Cayenne dans les années 30. Et il faisait partie des pratiques de la collecte de donner des noms des collectionneurs à des espèces. Et il se trouve qu'il y a donc un moustique qui porte le nom Abunanxi et qui du coup rend ce moustique parent, établit un lien de parenté entre un moustique potentiellement porteur d'une maladie comme le malaria qui pourrait donc être mortel pour le collectionneur. Et on a essayé de prendre ce moment du dédoublement d'un collectionneur sous forme animale comme point de départ pour penser la relation coloniale sous un type d'écriture plutôt affective que analytique. Alors du coup, on a beaucoup travaillé à partir des rêves, à partir des drogues, à partir des déplacements, des états de conscience tels que vous pouvez également les trouver dans des écrits de Michel Léris ou encore une analyse comme celle de Johannes Fabian, Out of Our Minds, comment les types d'écriture transforment ces regards sur les collections. Je me demande si c'est déjà le moment de s'arrêter ou si je peux montrer trois images de Pauline. Alors du coup, on saute en dehors du livre pour voir très rapidement l'une des contributrices dans les artistes, Pauline Barek, une artiste qui est basée à Bruxelles et qui s'intéresse dans son travail à tout ce qui rend les objets qui sont dans le musée auratiques. Alors du coup, au lieu de regarder l'œuvre en elle-même, elle va regarder, tout comme tout à l'heure on a regardé le cadre, elle va regarder les supports, elle va regarder les éclairages, elle va regarder les fils sur lesquels, comme ici, les fils sur lesquels l'œuvre est présentée. Elle va rendre ici vivante la corde qui habituellement met le spectateur dans une situation de distance physique par rapport à l'œuvre et qui ici se révolte et du coup devient un objet résistant et critique. Elle va, comme dans cette vidéo où on n'a pas le son malheureusement, elle va travailler à partir d'objets invisibles où la seule manière de les rendre présents est le son qui, et le mouvement des mains autour des objets qui va faire comprendre la présence d'un objet qui reste inaccessible au regard du spectateur. Elle va travailler sur une vitrine illusoire qui ne se construit qu'à partir du moment où l'angle du regard du spectateur se place exactement à un endroit frontal par rapport à ces deux lumières sur une planche en bois avec un miroir. Elle va interroger les fiches d'inventaire qui rendent un objet ce que c'est par sa description administrative et objectifiante. Et elle va, c'est ça le dernier travail que j'aimerais vous montrer, s'intéresser à l'envers du masque. Et elle a donc fait cette étude sur la forme des supports de masques qui finissent par donner une sorte d'écriture presque d'un alphabet, mais qu'on peut aussi voir comme des instruments de chasse et qui finalement sont une forme d'abstraction des formes récurrentes qu'on trouve quand on retourne donc les masques exposés au musée et de leur support pour pouvoir les montrer. Cet intérêt pour l'envers du décor, l'envers du masque, l'envers de la vitrine se retrouve dans ses dessins ou également dans cette vidéo qui répond directement au film Les statues meurent aussi d'Alain René et de Chris Marker où elle filme pendant un certain temps les visiteurs qui passent devant les vitrines plutôt que le regard des visiteurs dans la vitrine. Je voulais parler de cet exemple parce que ça me semble, dans cette question des translocations, une manière de rendre présent une écriture, une forme de réflexion qui va utiliser ou va se déplacer par rapport à l'espace du musée ethnographique tout en y trouvant la forme pour pouvoir interroger ces façons de fabriquer l'oratisation, l'objectification et du coup les conditions d'une fabrication d'un regard qui est un regard qui a une histoire et qui peut être en même temps travaillé par l'intervention des artistes. Pour le reste, je vous renvoie vers le livre parce que voilà, 10 minutes c'est très court. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette belle série. C'est très à propos avec les sémaphores, puisqu'il y a aussi en même temps un hommage à Christophe Fourmiant. Donc j'ai tout de suite pensé en regardant donc cette mise à nu du musée. J'aurais juste une question dans ces critiques qu'on a maintenant aussi souvent fait au musée dans ce que tu as décrit, l'outsourcing de sa propre critique à d'autres acteurs, notamment aux artistes. Quelles sont pour toi, ou est-ce que tu as pu identifier pour toi des conditions qui font néanmoins que ça marche, et quelles sont ces conditions aussi institutionnelles et d'autorité de ces voix?
Bah, d'une certaine manière, tu as donné la réponse. Non, c'est à partir du moment où il y a un vrai intérêt de la part de l'institution que le geste ne soit pas un geste décoratif ou un geste qui vienne figurer une intervention qui finalement reste totalement à la surface, mais qui a une vraie volonté de penser avec et pas d'avoir une sorte de parenthèse qui disparaît aussitôt. Toute forme d'intervention, qui se réduit d'ailleurs pas à celle des artistes, et peut être productive, alors que dans le sens inverse, elle ne l'est que très très peu. Et je pense que toi, tu es très bien situé avec les allers-retours entre Berlin et Paris pour voir ça aussi dans la façon comment il y a eu des limites très très fortes d'une forme comme le Humboldt Lab, qui finalement devenait très peu une forme de pensée pour préfigurer ce que ça pouvait être, ce musée en devenir.
Oui, on a du mal à passer de l'éphémère au l'aspect un peu permanent de cette critique, en effet, dans les collections.
Donc, c'est peut-être le moment de clore cet atelier. Donc, on se retrouve, nous, pour un dernier atelier la semaine prochaine. On aura deux interventions qui portent sur les objets dits des autres, comme ce qu'a présenté l'hôte dans le même thème, on va dire. Et j'en profite pour faire la petite annonce pour notre pot de clôture. On venait nombreux. Et on remercie encore l'hôte et tous les intervenants de cet atelier marathon. Merci beaucoup. Merci.